depuis ces jardins suspendus, bien c'est la marque de fabrique.
Plus on se rapproche des plantes, plus on a encore envie de s'approcher, et quand on rentre dans la nature, c'est tellement immense.
Et là, ça a été le départ d'une vraie aventure.
Les jardins suspendus, Olivier Horry.
Bienvenue dans ces nouveaux jardins suspendus où je vais vous donner un petit compte-rendu d'un de nos ateliers philo qui se tiennent les 2e, 3e et 4e jeudi du mois à la Renaissance 10 rue Radal à Aubenas. Il était question de science et de philosophie, un de ces jeudis. Donc la recherche philosophique va conserver dans la plupart des traditions initiales des caractéristiques de la science. D'abord, la philosophie va élaborer des concepts pour les utiliser dans son discours. Un concept est indissolublement un mot, souvent issu des langues courantes, et une notion. Concernant le mot et la notion, il y a deux exigences en quelque sorte non négociables. La première est celle d'une définition univoque et rationnelle, c'est-à-dire non contradictoire. La seconde, la possibilité de montrer ou d'observer des réalités qui correspondent effectivement à la définition. Ensuite, l'ambition de la science et de la philosophie est de pouvoir, avec ces concepts, élaborer des raisonnements correspondant dans la réalité à des relations de cause à effet entre les réalités désignées par les concepts. De ce point de vue, il ne faut pas s'étonner de la proximité de fait et historique entre la philosophie et les mathématiques, mais aussi entre la philosophie et la physique et la biologie, et en fait de sa proximité avec toutes les disciplines de connaissances qui rapidement vont prétendre élaborer des concepts et établir rationnellement des relations de cause à effet dans les événements. Ainsi, rapidement, va se former une science économique, par exemple. Nous trouvons chez les auteurs déjà cités ici une science politique très élaborée. Même ce que nous appelons l'histoire va avoir de telles prétentions, par exemple chez Hérodote. Je signale d'ailleurs que le mot grec historia, qui a donné notre mot histoire, signifie enquête ou connaissance acquise par l'enquête. Hérodote a écrit une histoire qui est une somme de connaissances sur les peuples, leurs lieux et ce qui leur est arrivé dans le temps. Théophraste a écrit une histoire des plantes, dont je peux ici vous donner un exemple pour illustrer une démarche scientifique comparable à une démarche philosophique. Dans son histoire des plantes, Théophraste conceptualise la notion de partie des plantes. Il en distingue 5, la racine, la tige, la feuille, la fleur et le fruit. Il observe très concrètement un arbre singulier qui a développé anormalement des racines longues et assez horizontales sur une grande partie de leur parcours. Or, conjonction de coordination, donc raisonnement, ces racines se dirigent manifestement vers un cours d'eau, donc, autre conjonction de coordination, poursuite du raisonnement, elles servent vraisemblablement à puiser de l'eau. Comme par ailleurs Théophraste a remarqué que le mouvement local, le changement de lieu, concernait certains êtres vivants et pas d'autres, il a jugé qu'il était pertinent de distinguer de cette manière les animaux et les plantes, d'où vraisemblablement une autre fonction des racines. Nous voyons assez facilement la force de la démarche scientifique que la philosophie voudra toujours lui emprunter. La science est réaliste et facilement communicable. Elle est dans un lien très fort avec les pratiques et tout particulièrement les pratiques utiles. La science est une pensée, mais elle est toujours aussi une action dans les réalités, que ce soit pour se constituer par l'expérience calculée ou pour agir dans un geste convenablement informé. Il va de soi que l'exercice de la puissance que permettent les technosciences ne va pas sans inconvénients.
Cousin Billy would take me walking out through the backyard, we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man, the only boy who
could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, Lord, he was.
Yes, he was.
Au tout début de la philosophie occidentale se trouve Platon. 427-347 avant Jésus-Christ, la philosophie, ça conserve. Dans la République, il est question, bien entendu, de science et de philosophie, de connaissance de la réalité. En général, dans la République, Platon nous délivre sa célébrissime allégorie de la caverne où l'on voit les prisonniers peut-être sortir de leur vision illusoire de réalités illusoires pour gagner des réalités plus certaines, peut-être.
Eh bien, après cela, dis-je, compare notre nature, considérée sous le rapport de l'éducation et du manque d'éducation, à la situation suivante. Voici des hommes, dans une habitation souterraine en forme de grotte, qui a son entrée en longueur, ouvrant à la lumière du jour l'ensemble de la grotte. Ils y sont depuis leur enfance, les jambes et la nuque pris dans des liens qui les obligent à rester sur place et à ne regarder que vers l'avant, incapables qu'ils sont, à cause du lien, de tourner la tête. Leur parvient la lumière d'un feu qui brûle en haut et au loin, derrière eux. Et entre le feu et les hommes enchaînés, une route dans la hauteur, le long de laquelle voici qu'un muret a été élevé, de la même façon que les démonstrateurs de marionnettes disposent de cloisons qui les séparent des gens. C'est par-dessus qu'ils montrent leurs merveilles. « Je vois, » dit-il. « Vois aussi, le long de ce muret, des hommes qui portent des objets fabriqués de toutes sortes qui dépassent du muret, des statues d'hommes et d'autres êtres vivants, façonnés en pierre, en bois et en toute autre matière. Parmi ces porteurs, comme il est normal, les uns parlent et les autres se taisent. C'est une image étrange que tu décris là, dit-il, et d'étranges prisonniers. Semblable à nous, dis-je. Pour commencer, en effet, crois-tu que de tels hommes auraient pu voir quoi que ce soit d'autre, de même et les uns des autres, que les ombres, qui, sous l'effet du feu, se projettent sur la paroi de la grotte en face d'eux? Comment auraient-ils fait, dit-il, puisqu'ils ont été contraints tout au long de leur vie de garder la tête immobile? Et en ce qui concerne les objets transportés, n'est-ce pas la même chose? Bien sûr que si. Alors, s'ils étaient à même de parler les uns avec les autres, ne crois-tu pas qu'ils considéreraient ce qu'ils verraient comme ce qui est réellement? Si, nécessairement. Et que se passerait-il si la prison comportait aussi un écho venant de la paroi d'en face? Chaque fois que l'un de ceux qui passent émettrait un son, crois-tu qu'il penserait que ce qu'il émet est autre chose que l'ombre qui passe? Non, par Zeus, je ne le crois pas, dit-il. Dès lors, dis-je, de tels hommes considéreraient que le vrai n'est absolument rien d'autre que l'ensemble des ombres des objets fabriqués. Très nécessairement, dit-il. Examine alors, dis-je, ce qui se passerait si on les détachait de leurs liens et si on les guérissait de leur égarement, au cas où, de façon naturelle, les choses se passeraient à peu près comme suit. Chaque fois que l'un d'eux serait détaché et serait contraint de se lever immédiatement, de retourner la tête, de marcher et de regarder la lumière, à chacun de ces gestes, il souffrirait et l'éblouissement le rendrait incapable de distinguer les choses dont, tout à l'heure, il voyait les ombres. Que crois-tu qu'il répondrait si on lui disait que, tout à l'heure, il ne voyait que des sottises, tandis qu'à présent, qu'il se trouve un peu plus près de ce qui est réellement et qu'il est tourné vers ce qui est plus réel, il voit plus correctement. Surtout si, en lui montrant chacune des choses qui passent, on lui demandait ce qu'elle est en le contraignant à répondre. Ne crois-tu pas qu'il serait perdu et qu'il considérait que ce qu'il voyait tout à l'heure était plus vrai que ce qu'on lui montre à présent ? Bien plus vrai, dit-il. Et de plus, si on le contraignait aussi à tourner les yeux vers la lumière elle-même, n'aurait-il pas mal aux yeux ? Et ne la fuirait-il pas pour se retourner vers les choses qu'il est capable de distinguer, en considérant ces dernières comme réellement plus nettes que celles qu'on lui montre ? Si, c'est cela, dit-il.
Voilà donc ce qui se passe dans un atelier philo. On essaye de voir des réalités plus réelles qui nous paraissent pas forcément plus réelles dans un premier temps. Voilà. Il me reste à remercier Sophie Lefebvre qui a prêté sa voix à Platon, à remercier Landy Unger qui a choisi pour nous Dusty Springfield, Son of a Preacher Man, de l'album Dusty in Memphis 1968. C'est Landy Unger, l'ange musical des Jardins Suspendus, qui l'a choisi. Merci à Sylvain, surtout, qui réalise tout ça. Ciao, ciao.